7. Le naufrage. Enfin, nous glissions sur l'océan Pacifique. Cette mer du Sud, tant attendue, tant espérée. Mon rêve d'enfant se réalisait. J'avais atteint le centre du monde, car on dit que l'océan Pacifique est le corps des océans, tandis que l'océan Atlantique et l'océan Indien n'en sont que les bras. C'est dans cette région et à cette époque, peu de temps avant notre hiver, que l'on trouvait le plus de baleines. Dans les eaux peu profondes, elles se nourrissaient d'algues ou, plus loin, cherchaient les calamars. Voir ces plantes ou ces animaux était pour nous un signe. Nous devions être extrêmement vigilants. Les hommes, les uns après les autres, montaient en haut des trois mâts. Moi, j'étais un mauvais observateur. Perché au sommet du gigantesque mât, je n'ai rien vu. C'est un autre matelot, plus expérimenté, qui a aperçu les premiers cétacés. Chacun savait ce qu'il avait à faire.
Baleine !
Baleine !
Elle souffle !
Des cris d'alerte ont été poussés, des baleinières ont été mises à l'eau. Sur ces pirogues, les hommes guettaient les baleines avec leurs harpons. Celles-ci s'enfuyaient au plus profond de l'océan. Il fallait parfois attendre une vingtaine d'heures pour les voir réapparaître. Quand elles remontaient à la surface, enfin à ce moment-là, les harponneurs lançaient leur fer qui s'enfonçait dans la chair de ces géants. Tenus par les fils des harponneurs, les baleines blessées finissaient par se retourner en mourant. Les harponneurs grimpaient sur leur dos pour les remorquer jusqu'au bateau. On allumait alors les fourneaux pour faire fondre la graisse et récupérer la précieuse huile que l'on stockait dans des barils au fond de la cale. Les jours de chasse, nous mangions des steaks de baleines grillés. Nous fêtions notre victoire malgré l'épuisement, lorsque parfois le vent n'avait pas trop soufflé et que les baleines ne s'étaient pas trop défendues. Parfois aussi, la tempête grondait ou l'animal se déchaînait, et nos vies étaient alors en danger. Peu à peu, les cales se remplissaient, notre richesse grandissait. Mais un matin, après avoir fait un tour dans les cales, Starbuck a alerté le capitaine Ahab. « Capitaine, il faut s'arrêter pour décharger les tonneaux. L'huile coule dans la cale. Nous ne savons pas d'où vient la fuite. »«
Retourne à ta place. Pour rien au monde, nous ne nous arrêterons si près du but. »«
Si près de quel but, capitaine ? Nous risquons de perdre en une seule journée l'huile que nous avons réunie pendant des mois de travail, des mois de navigation. Tout ce que nous avons mis 20 000 milles à produire doit être sauvé. »
Ce sera ainsi. Ce sera ainsi si nous l'attrapons.
Je voulais parler de l'huile dans la cale, capitaine.
Et moi, je ne voulais pas en parler. Retourne sur le pont. Laisse couler l'huile.
Que penseront les armateurs si nous rentrons les cales vides ?
Ahab se moque de ce que penseront les armateurs si nous rentrons les cales vides. Ahab est le capitaine, le seul chef du Pequod. Et Ahab décide de continuer.
Ahab ferait mieux de se méfier d'Ahab, finit par dire Starbuck en colère. Et je ne sais pas si le capitaine a ensuite retrouvé la raison ou s'il a voulu cacher son vrai but, mais il a ordonné d'arrêter le navire et de décharger les tonneaux afin de trouver la fuite et de sauver cette huile précieuse. Malgré cette décision qui lui faisait perdre du temps, Ahab a ensuite poursuivi son insensé projet. Au large de l'Asie, dans les eaux où les groupes de cétacés sont nombreux, nous avons croisé un certain nombre de bateaux. À chaque fois, comme c'est la coutume, les capitaines nous envoyaient des signaux pour inviter notre capitaine. Chacun lui racontait alors son aventure ou sa mésaventure. Il y avait ceux qui rentraient les cales remplies d'huile précieuse, le cœur ravi, ou ceux qui pleuraient leurs pertes et leurs blessures. Les uns et les autres voulaient partager leur joie et leur peine. Face à leur récit, cependant, Ahab restait insensible. Une seule question le brûlait.
« Avez-vous vu Moby Dick ?»
Personne n'avait vu la baleine au front ridé. Seulement un jour, nous avons rencontré un navire nommé le Rachel. Et dans la description que faisait son capitaine d'une scène de naufrage de baleinière, où il avait vu ses fils mourir, Ahab a tout de suite reconnu le monstre marin.
C'était Moby Dick !
S'est-il écrié.
Une baleine blanche, presque irréelle, avec une bosse.
C'était peut-être elle, a répondu le capitaine.
Une géante rusée, avec des harpons au milieu du corps ?
A encore interrogé Akab.
Oui, c'est ça.
Cela ne fait aucun doute. C'était bien elle. Les fers, c'est moi qui les ai plantés dans son flanc lors de notre dernière bataille, il y a presque 2 ans. Et elle va bientôt mourir parce que je vais la retrouver pour finir de la tuer. Enfin, je vais pouvoir me venger.
Le capitaine Akab, sans attendre la fin du récit, sans répondre au capitaine du Rachel qui avait perdu beaucoup d'hommes et ses fils à cause de Moby Dick, sans écouter ses conseils de ne pas faire comme lui, de ne pas mettre en danger sa vie et celle de son équipage, sans rien écouter d'autre que son instinct et sa haine, le capitaine Akab s'est empressé de quitter ses hôtes pour remonter sur le Pequod. 1 heure après, nous faisions cap dans la direction que le capitaine du Rachel avait indiquée sur la ligne équatoriale. C'est là que la tempête nous a surpris. Violente, impitoyable. La pluie frappait, le vent arrachait. Les éclairs qui transperçaient le ciel sont venus s'abattre sur les voiles. Elles ont pris feu. Au milieu de cet ouragan, le bateau n'était plus qu'un volant que s'envoyaient les gigantesques vagues. Heureusement, même si elles peuvent sembler annonciatrices d'un désastre, les tempêtes sont passagères. La pluie, le vent, le feu se sont apaisés. Nous avons hissé de nouvelles voiles avant que le vent tourne et se mette à souffler dans notre dos. Quelques jours plus tard, pendant la nuit, alors qu'Akab, le regard sauvage, observait avec insistance l'horizon, il s'est mis à sentir l'air. Tel un chien de bord qui renifle au loin une île sauvage, il a tout de suite dit qu'une baleine devait nager dans ses eaux au moment où personne n'avait encore rien remarqué d'autre que la mer d'huile et le scintillement des étoiles. Mais en effet, peu après, nous avons tous senti l'odeur très particulière du cachalot vivant. Akab, avec son compas, vérifiait ses calculs. Il savait sans doute exactement où l'animal devait se trouver, car, assez rapidement, il a ordonné de diminuer les voiles pour ralentir et dévier la trajectoire. Au lever du soleil, il a ordonné de réveiller l'équipage. Les hommes, à peine habillés, arrivaient sur le pont en courant et se penchaient pour observer l'eau dans toute sa profondeur. Une longue masse huileuse glissait sous l'eau, comme une sage caresse offerte à l'océan Pacifique.
« En haut des mâts ! Vous ne voyez donc rien ?»
a crié Akab. Il a fait descendre un des hommes, celui qui était sur le plus haut mât. À son tour, Akab est monté. Mais à mi-chemin, il s'est arrêté pour regarder, et soudainement, il s'est écrié.
« Elle souffle ! Elle souffle ! Le front ridé ! La bosse blanche comme la neige ! C'est Moby Dick ! Préparez les baleinières !»
Akab avait repéré son ennemi. La prévision d'Akab était donc juste. Et il l'avait repéré le premier. En tout cas, c'est ce qu'il criait à tous. Il était le seul à l'avoir vu le premier, et c'est à lui que reviendrait la pièce d'or. À lui seul. Tout s'est ensuite accéléré. Des ordres ont été hurlés. Les harponneurs et les rameurs sont montés dans les baleinières qui ont été jetées à la mer. La poursuite a commencé. La baleine glissait lentement dans l'océan, divine, mystérieuse, immortelle. Son calme apparent était majestueux et d'une douceur incomparable. Des oiseaux blancs tournaient autour d'elle. Les vagues étaient délicates, l'eau si calme qu'on aurait dit un tapis déroulé pour une reine. C'est sans doute à cause de cette tranquillité trompeuse que de nombreux marins ont attaqué Moby Dick sans se méfier. Moby Dick, invisible par ruse, mâchoire invisible, front ridé invisible. Les harponneurs, prêts à envoyer leur fer, étaient réellement troublés par cet air paisible. Seul Akab, si près de sa vengeance, restait enflammé. D'un coup, il a communiqué sa flamme en ordonnant de lancer les harpons. Et à cet instant, La géante créature marine s'est retournée et elle a plongé, emportant dans son tourbillon des hommes, des fils et des harpons. Les rameurs et les harponneurs qui ne s'étaient pas noyés sont remontés à bord. Dès le lendemain, de nouveaux fers ont été forgés, de nouvelles baleinières ont été mises à la mer. Akab guettait. L'animal, qui se savait menacé, disparaissait de plus en plus longtemps. Durant des heures, le silence de la mer a pesé sur les hommes, mais plus pesant encore était le souffle lointain de l'animal lorsqu'il réapparaissait. Les pirogues se rapprochaient avec difficulté, car aucun vent ne les aidait à rejoindre leur proie. Après 3 jours et 3 nuits, alors que les hommes encore vivants commençaient à fatiguer, Starbuck, qui était resté maître du Pequod, a remarqué le vol des oiseaux. Il s'agitait, tournait au-dessus de la pirogue d'Akab. Le vieillard n'a pas pu voir sous sa pirogue l'animal qui se rapprochait à une vitesse étonnante. Soudain, la créature divine a surgi des ténèbres de l'océan. Sa masse plus lourde, plus puissante que jamais, a jailli hors de l'eau. Puis, en retombant, l'immense queue s'est violemment abattue sur les baleinières, les brisant comme un tremblement de terre aurait détruit des tours. Les hommes, avec leur cupidité, leur cruauté, leur soif de vengeance et de pouvoir, ont été aussitôt engloutis, Akab le premier. Moby Dick est ressorti une dernière fois pour s'abattre sur le Pequod qui a coulé avec le reste de l'équipage. Moi, je ramais à l'arrière de la baleinière la plus éloignée. J'étais donc plus loin du désastre. Seul dans l'eau, j'ai survécu grâce au cercueil boué que mon ami très cher, Quickegg, avait fait construire. Au lieu de transporter son corps vers un autre monde, il a emmené le mien vers une nouvelle vie. 2 jours après le naufrage du Pequod, j'ai croisé le Rachel. On m'a repêché. Moi, seul survivant d'un combat sans espoir, provoqué par un fou plein de haine, j'ai pu vous raconter cette histoire grâce au capitaine de ce navire qui m'a sauvé. Le pauvre homme avait perdu ses enfants. Ce jour-là, l'océan lui a rendu un fils. Moi, j'ai retrouvé un père.